Eh non, au fait, comment l'auriez-vous su ? Reprit Robert. Vous étiez en geôle par la grâce de votre ami Édouard. Il s'agit d'un baron gascon, Jourdain de Lille, auquel le Saint-Père avait donné une sienne nièce en mariage, et qui commit quelques minces méfaits, à savoir volerie, homicide, forcé d'âme, dépucelé pucelle, et un peu de bougrerie sur les jouvenceaux par surcroît. Il entretenait autour de lui voleurs, meurtriers et autres gens de mauvaise merdaille qui dépouillaient pour son compte clercs et laïcs. Comme le pape le protégeait, on lui fit grâce de ses peccadilles, sous la promesse qu'il s'amenderait. Le Jourdain ne sut mieux faire pour prouver sa pénitence que de se saisir d'un sergent royal qui venait lui délivrer une sommation et de le faire empaler. Ah ! Sur quoi ? Sur le bâton à fleur de lys que le sergent portait. Robert d'Artois eut un grand rire qui trahissait son naturel penchant pour la canaille. On ne savait à vrai dire quel était le plus grand crime, d'avoir oxyé un officier du roi ou d'avoir enduit les fleurs de lys de la crotte d'un sergent. Le sire Jourdain fut pendu au gibet de Montfaucon. Oh, vous pourrez le voir encore si l'aventure vous passait par là. Les corbeaux lui ont laissé peu de chair. Depuis, nous sommes en fraîcheur avec Avignon. Et Robert se remit à rire, la gueule en l'air, les pouces dans sa ceinture. Et sa joie était si sincère que Roger Mortimer lui-même se mit à rire par contagion. Et Valois riait aussi, et son fils Philippe. Cela les rendit plus amis de rire ensemble. Mortimer se sentit soudain admis dans le groupe Valois et se détendit un peu. Il regardait avec sympathie le visage de Monseigneur Charles, un visage large, haut en couleur, d'homme qui mangeait trop et que le pouvoir privait de prendre assez d'exercice. Mortimer n'avait pas revu Valois depuis de rapides rencontres, une fois en Angleterre d'abord, pour les fêtes du mariage de la reine Isabelle, et puis une seconde fois, en 1313, en accompagnant les souverains anglais à Paris pour le premier hommage. Et tout cela, qui semblait hier, était déjà bien loin. 10 ans. Monseigneur de Valois, un homme encore jeune à l'époque, était devenu ce personnage massif, imposant. Allons, il ne fallait pas perdre le temps de vivre, ni négliger l'occasion de l'aventure. Cette croisade, après tout, commençait de plaire à Roger Mortimer. « Et quand donc, Monseigneur, vos nefs lèveront-elles l'ancre ? » demanda-t-il. « Dans 18 mois, je pense, » répondit Valois. « Je vais renvoyer en Avignon une 3e ambassade pour arrêter définitivement la fourniture des subsides, les bulles d'indulgence et l'ordre de combat. Et ce sera belle chevauchée, Monseigneur de Mortimer, où il faudra vaillance et où les pharaons auront à montrer autre chose que ce qu'ils font en joute, » dit Philippe de Valois, qui n'avait pas parlé jusque-là et dont le visage se colora un peu. Le fils aîné de Charles de Valois imaginait déjà les voiles gonflées des galères, les débarquements sur les côtes lointaines, les bannières, les cuirasses, le choc des lourds chevaux de France chargeant les infidèles, le croissant piétiné sous le fer des montures, les filles mauresques capturées dans le fond des palais, les belles esclaves nues arrivant enchaînées. Et sur ces grasses gaupes, rien n'empêcherait Philippe de Valois d'assouvir ses désirs. Ses grandes narines déjà s'élargissaient. Car Jeanne la Boiteuse, son épouse, dont la jalousie éclatait en scène furieuse dès qu'il regardait la poitrine d'une autre femme, resterait en France. Ah, elle n'était pas de caractère aisé, la sœur de Marguerite de Bourgogne. Or, il se peut qu'on aime sa femme et qu'en même temps une force de nature vous pousse à en désirer d'autres. Il faudrait au moins une croisade pour que le grand Philippe osât tromper la Boiteuse. Mortimer se redressa un peu et tira sur sa côte noire. Il voulait revenir au sujet qui lui importait et qui n'était pas la croisade. « Monseigneur, dit-il à Charles de Valois, vous pouvez me tenir comme marchand dans vos rangs, mais je venais aussi quêter de vous. » Le mot était dit. L'ancien grand juge d'Irlande l'avait prononcé, cette parole sans laquelle aucun solliciteur ne récolte rien, sans laquelle aucun homme puissant n'accorde son appui. Quêter, demander, prier. Il n'était point besoin d'ailleurs qu'il en prononçât davantage. « je sais, répondit Charles de Valois. Mon gendre Robert m'a mis au fait. Vous souhaitez que j'intrigue pour votre cause auprès du roi Édouard. Or donc, mon très loyal ami !» D'un seul coup, parce qu'il avait quêté, il était devenu un ami. « Or donc, je ne le ferai pas, parce que cela ne servirait de rien, sinon à m'attirer quelque nouvel outrage. Savez-vous la réponse que votre roi Édouard m'a fait tenir par le comte de Bouville ? Oui, vous la savez, bien sûr. » Alors que la dispense pour le mariage était déjà demandée au Saint-Père, quelle figure me donne-t-il ? Vais-je aller maintenant lui demander qu'on vous restitue vos terres, vous rétablisse dans vos titres, et qu'il chasse ces honteux Despenser ?
Et que par là même il rende à la reine Isabelle
« Ma pauvre nièce !» s'écria Valois. « Je sais, loyal ami, je sais tout. Croyez-vous que je puisse, ou que le roi de France puisse faire changer le roi Édouard à la fois de meur et de ministre ?
Vous ne devez pas ignorer toutefois que lorsqu'il a envoyé l'évêque de Rochester pour réclamer votre livraison,
nous avons refusé. Nous avons refusé de seulement recevoir l'évêque. Premier affront que je rends à Édouard en échange du sien. Nous sommes liés, vous et moi, monseigneur de Mortimer, par les outrages qui nous ont été infligés. Et si l'occasion nous vient, à l'un ou à l'autre, de nous venger, je vous fais foi, cher sire, que nous nous vengerons ensemble. »
Mortimer, sans en rien montrer, sentit le désespoir l'envahir. L'entretien dont Robert d'Artois lui avait promis miracle.
« Mon beau-père Charles peut tout. S'il vous prend en amitié, et il ne manquera pas de le faire, vous êtes sûr de triompher !»
L'entretien semblait achevé. Et qu'en résultait-il ?
Du vent.
La promesse d'un vague commandement dans 18 mois au pays des Turcs. Roger Mortimer songeait déjà à quitter Paris, à se rendre auprès du pape. Et si de ce côté-là il n'obtenait rien, alors il irait trouver l'empereur d'Allemagne. Ah, elles étaient amères les déceptions de l'exil. Son oncle de Schirk les lui avait prédites. Ce fut alors que Robert d'Artois, dans le silence gêné qui s'était fait, dit
« Cette occasion de la vengeance dont vous parlez, Charles, pourquoi ne la ferions-nous pas naître ?